dans deux références bibliques, Exode, chapitre 15. Je vous propose trois versets, versets 25, 26, 27. Le livre de l'Exode, chapitre 15, le verset 25. C'est un épisode de l'histoire d'Israël que nous connaissons bien. Et juste après que le Seigneur ait assaini les eaux de Mara, il est écrit ceci. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Amen. Le livre des psaumes, le psaume 92, nous lisons à partir du verset 13. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Quel psaume merveilleux dans ce texte que nous venons de lire ensemble. J'aimerais juste mettre en évidence le verset 13, le commencement du verset 13, c'est cette portion de verset qui va m'intéresser tout spécialement. Les justes croissent comme le palmier. On va réfléchir, que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen, et que nous puissions être instruits, encouragés, fortifiés par cette affirmation, cette vérité spirituelle, les justes croissent comme le palmier. Nous n'avons pas lu les versets précédents, mais si nous l'avions fait, nous aurions lu, par exemple, au verset 8, que les méchants croissent eux aussi. Le verset 8 dit... Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Il y a la croissance factice et trompeuse des méchants, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le verset 13, qui dit « les justes ». Les justes, eux, c'est différent, les justes croissent comme le palmier. C'est donc un message qui est adressé à un public particulier, les justes. Les justes. C'est très simple. Les justes indiquent les enfants de Dieu. Amen. Ce qualificatif désigne tous les hommes, toutes les femmes qui un jour ont rencontré Jésus-Christ. La foi est née dans leur cœur, ils se sont repentis de leurs péchés, ils sont nés de nouveau, et étant donc justifiés par la foi, eh bien, comme dit Romains chapitre 5, nous avons la paix avec Dieu. Alors, il ne s'agit pas des propres justes, parce que notre propre justice, la Bible la compare à un vêtement souillé. Et la Bible affirme, il n'y a pas un juste, hein, pas un seul, pas même un seul. Leur justice est comme un vêtement souillé. Et le meilleur d'entre les hommes, il est là peut-être parmi nous, je ne sais pas, mais attendez la suite, est semblable à un buisson d'épines. Donc on va tous se faire très discret. Hein. Ça c'est l'homme naturel, l'homme pécheur. Il n'y a pas un seul juste. Par contre, la bonne nouvelle de l'Évangile nous révèle que par la foi dans le Sauveur que Dieu nous a envoyé, nous sommes rendus justes. Tous les chefs d'inculpation sont disparus dans le pardon gratuit que Dieu accorde à ceux qui se repentent et qui placent leur foi en Jésus-Christ. Ils sont déclarés par Dieu lui-même justes, justifiés. Amen. Entre parenthèses, ne permets pas au père du mensonge de t'accuser pour des raisons qui n'existent plus, puisque tu as été justifié. Amen. Et les justes, donc les enfants de Dieu, quelle parole magnifique, les justes croissent comme le palmier. Il est donc ici question d'une notion essentielle, la croissance. Et on l'a bien compris, la croissance est une réalité liée à la vie. C'est ce qui est vivant qui croit. La croissance, c'est la démonstration que je suis vivant. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et maintenant que nous sommes vivants, mais c'est tout à fait évident, il faut une croissance. Et mes frères et mes sœurs, il y a de nombreuses exhortations dans les Saintes Écritures qui nous encouragent à aspirer à la croissance. Moi, j'ai arrêté à 1m67. J'ai fait un blocage de croissance. Mais c'est de croissance spirituelle que je veux parler ce soir. Hein. Et dans ce domaine spirituel, je crois que jusqu'au dernier souffle, nous sommes appelés à croître. C'est la volonté de Dieu que tu croisses. C'est le programme de Dieu pour ta vie. C'est un programme merveilleux parce que dans cette notion de croître, la croissance, croître c'est grandir, croître c'est s'élever dans la connaissance de Dieu. Croître c'est se développer, c'est s'épanouir, croître c'est se fortifier, croître c'est suivre une courbe d'évolution, d'enrichissement, comme le carnet de santé d'un bébé. Hein, il y a des courbes à 6 mois, à 9 mois, à 1 an. On mesure, on a des références chiffrées pour bien vérifier que l'enfant est en bonne santé. Eh bien, il en est ainsi dans le domaine spirituel. Voilà. Tu en es où sur ton carnet de santé? La courbe. Hein? Est-ce que tu es plutôt en dessous de la moyenne inférieure? Ou est-ce que tu es dans la marge normale? La volonté de Dieu pour nous tous, et moi qui vous prêche, c'est que nous vivions une croissance spirituelle. Gloire à Dieu. L'apôtre Jean va écrire à un croyant en disant « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » C'était quelque chose qui tenait à cœur, l'apôtre Jean, que tu prospères à tous égards. Dans tous les domaines, je souhaite que tu puisses encore et encore croître, te développer. Alléluia. Je peux dire que je connais le Seigneur, mais en même temps, je peux dire que je veux mieux le connaître. Dire ce que nous disons souvent, c'est le vocabulaire assez banalisé parmi les croyants, dire connaître Christ mériterait une nuance. Nous connaissons Christ, merci Seigneur, mais nous avons encore tellement à le connaître, à développer notre croissance. le verbe connaître dans la Bible, c'est très fort. Connaître, c'est pas simplement être informé, c'est pas simplement une info cérébrale, mais connaître, c'est être dans une intimité si proche qu'on peut dire je le connais. Connaître, c'est naître avec. C'est très fort, c'est très fort. C'est entrer dans une relation privilégiée avec celui que nous voulons connaître, vraiment. Paul disait à certains croyants, je le dis à votre honte, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est sérieux, hein? Ça fait réfléchir. Mais moi, je veux le connaître. Et je veux croître dans la connaissance de Jésus. Il y a certaines paroles qui me font vraiment frémir. Ceux qui viendront, vous savez, c'est Jésus qui le dit, frappez à la porte du ciel. Ouvre-nous, ouvre-nous. Nous avons prophétisé par ton nom. Nous avons chassé des démons par ton nom. Ouvre-nous. Et Jésus va leur dire, mais je ne vous ai jamais connu. Ouh là là, il manque chez ces gens un élément capital. C'est la connaissance du Seigneur, personnelle, authentique, individuelle. Et dans ce domaine de la connaissance de Christ, nous sommes appelés à croître, à grandir. Amen. Je prie pour que ces quelques paroles introductives suscite en chacun de nous la soif de grandir. Amen. Le désir de progresser. On remercie le Seigneur pour le chemin parcouru, mais on se contente pas de ça. On en veut plus, hein. Qui est-ce qui en veut plus? Amen. On veut connaître, grandir, croître, évoluer dans cette courbe ascendante de la connaissance du Seigneur Jésus. Vous savez, il est dit de certaines personnes majeures et importantes, par exemple Jean-Baptiste, il est dit de Jean-Baptiste, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Pas seulement physiquement, musculairement, sa charpente, son ossature, son squelette, c'est pas que ça. C'est pas seulement le développement de ses capacités intellectuelles, mais il se fortifiait en esprit. Même sa partie spirituelle connaissait un développement. Et même de Jésus, Jésus qui s'est fait homme, hein, qui a revêtu cet aspect donc humain, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et je me dis que si mon divin modèle a connu cette courbe de croissance, moi, son disciple, je suis appelé à suivre la même courbe. Alléluia. Jean-Baptiste l'a dit très, c'est des paroles très célèbres, hein. Publiquement, Jean-Baptiste a dit, en montrant Jésus, là, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et là, mes bien-aimés, il y a un verset clé pour notre épanouissement spirituel, parce que le gros problème que moi je rencontre, je sais pas vous, si, je sais que vous aussi, c'est le jeu. Ego, en latin. C'est le jeu. Eh bien, Jean-Baptiste dit, je diminue. Il faut que lui, il croisse. Et que je diminue. Et je prie le Seigneur, voyez, je vous le dis en toute simplicité, hein, chaque fois que j'ai à apporter une prédication, je dis, Seigneur, s'il te plaît, permets que quand je délivre ta parole, il n'y ait pas d'interférence de paille qui se mélangerait avec le bon froment. Qu'il n'y ait pas de l'humain, Seigneur, qui vienne. Le jeu, je souhaiterais le voir de plus en plus rapetisser. Et je souhaite tellement que toi, Jésus, tu augmentes ton règne dans ma vie. Il faut, c'est un impératif, parce que c'est le jeu qui va t'embêter. C'est le jeu qui va t'empoisonner. C'est le jeu avec ses réactions charnelles qui va te porter préjudice, qui va te maintenir dans de la versatilité, dans de l'inconstance, de l'impulsivité. C'est le jeu. Eh bien, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Amen. Est-ce qu'on accepte de diminuer? Afin que lui croisse et qu'il soit glorifié et qu'il soit vu. La croissance des justes. Les justes croissent comme le palmier, que le Seigneur soit béni. Comme le palmier. C'est une image remplie d'instructions que nous donnent les Écritures. Et il y a quelques instructions que j'aimerais extraire de cette comparaison avec le palmier. J'aimerais grandir comme le palmier. Et j'aimerais commencer ma réflexion avec certainement la partie qu'on ne remarque pas, ou le moins, c'est les racines du palmier. C'est la partie cachée. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, avec le Seigneur, la partie cachée a une importance supérieure à la partie apparente. C'est toujours comme ça. Ce qui est caché, c'est ce qui est vital. Et le palmier a ceci de remarquable, c'est que son système de racines est impressionnant. Il n'a pas une racine, mais il a une multiplicité de racines grosses comme un doigt qui vont verticalement en profondeur chercher l'humidité, parfois à des profondeurs impressionnantes, et donc c'est une multiplicité. À la maison, nous avions un palmier. Et ce palmier, moi je débarquais du nord, Lyon, hein, Rhône-Alpes. Je savais pas les spécificités méditerranéennes, les végétaux. Et à un moment donné, avec mon épouse, on a remarqué des papillons qui tournaient autour du palmier. On s'est dit, tiens, c'est la première fois qu'on voit des papillons comme ça. Ils avaient quelque chose de laid. D'ailleurs, quand ils volaient, ça faisait un bruit. Et puis, on a commencé à voir le palmier perdre une branche, deuxième branche. Alors, on s'est un petit peu documenté. Et les gens de la Méditerranée nous ont dit, mais il est colonisé, votre palmier. Allez regarder, creusez un petit peu le tronc. Oh là 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 là. Il était rempli de gros vers, des larves, mais alors impressionnantes, qui avaient fait des galeries. Il était fichu. Bon. Alors, il a fallu le déraciner. Mais je vous assure, c'est là qu'on a vu qu'un palmier est doté d'un système de racines, mais d'une force et d'une ténacité incroyable. Il a fallu un palan. Il a fait venir un gars qui savait faire ces choses. Il est venu avec un palan, avec une chaîne, un levier, et on a pris un gros poteau en béton armé comme point d'ancrage, et on a actionné, et la chaîne s'est tendue, le tronc du palmier a commencé à plier, et on a entendu des claquements, pom, 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 mais peut-être 20, 30, c'était chaque racine qui commençait à casser, à casser, à casser, et on a fini par le déraciner. Et quand j'ai vu tout ce système souterrain, eh ben, ça m'a parlé. Le palmier a un système de racines qui lui donne la capacité de demeurer debout en plein désert, même lorsque les tempêtes du désert soufflent. Vous savez, dans ces grandes étendues planes du désert, il n'y a pas de relief pour arrêter le vent. Et quand le vent se lève, mes amis, et quand le vent projette des tonnes de sable, eh ben, le palmier, il est là, il va se courber, et puis quand le vent s'arrête, il va se relever. Moi, je prie le Seigneur pour que quelqu'un qui est courbé en ce moment se relève. Et ce qui va te permettre de te relever, ce sont tes racines. L'apôtre Paul disait, je fléchis le genou devant le Père. Oh, je prie pour que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, afin qu'étant enracinés dans l'amour de Christ, vous compreniez les dimensions, la largeur, la longueur. Vous connaissez ce merveilleux texte d'Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 13, 14 et les suivants, voyez-vous, afin qu'étant enraciné, je prie le Seigneur pour que tu sois enraciné. Parce que dans la météo eschatologique, la météo de la fin des temps, il va y avoir des vents violents, des cyclones, des ouragans qui vont balayer l'humanité, la société. Et toi, tu es là comme un palmier et tu es au milieu de ce contexte, mais tu as besoin d'être enraciné. Vous avez lu l'histoire de ces quatre merveilleux palmiers, Daniel et ses trois amis? Vous avez vu dans quel contexte ils se sont retrouvés plongés, arrachés à leur famille, à leur peuple, à leur pays, emportés en exil, la cible de la pression du roi païen qui leur imposait une nourriture impure. Mais ces quatre palmiers étaient enracinés dans leur foi en l'Éternel, leur Dieu. Alors, tout prisonniers qu'ils étaient, ils ont regardé dans les yeux le chef des prisonniers et ils leur ont dit, nous ne nous souillerons pas avec les mets dédiés aux idoles païennes. Donnez-nous des légumes. 5 fruits et légumes par jour. Donne-nous des légumes, nous ne mangerons que des légumes, et après tu viendras jauger nos mensurations et leurs racines dans la foi en leur Dieu étaient tellement solides, eh bien, qu'ils ont bravé les menaces royales. Dieu les a bénis, Dieu a honoré leur foi. Amen. Le roi Nebuchadnezzar se fait ériger une statue à sa gloire avec un décret royal. Quiconque verra la statue devra se prosterner devant elle. Eh bien, il y a trois palmiers, là, les trois amis de Daniel, ils ont dit, ben non. Nous ne nous prosternerons pas devant la statue du roi. Mais là, attention, c'est que, voyez, les mécanismes juridiques aujourd'hui, c'est gentil, hein. Mais à l'époque, quand on avait une attitude réfractaire et rebelle comme ça, c'était la fournaise. Et pour eux, un traitement de faveur, on avait surchauffé la fournaise. Et on les a jetés dans la fournaise, si bien que les soldats qui ont jeté les trois jeunes gens dans la fournaise ont été calcinés sur place. Ils sont morts. Mais dans la fournaise, il y avait les trois palmiers, ils étaient là. Il y avait les trois jeunes gens qui parlaient avec un quatrième personnage dont le roi païen dira, mais c'est qui lui? Il ressemble à un fils des dieux. Dans le langage de ce roi ignorant, en fait, c'était le Seigneur Jésus qui était déjà là. Oui, parce que Jésus, il vient avec nous dans la fournaise pour nous en protéger et nous en préserver. Gloire à Dieu. Alors, faites-les sortir. On fait sortir les trois jeunes gens. Ils ne sentaient pas le feu. Même leurs sourcils n'avaient pas été atteints par les flammes. Quel témoignage. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enracinés, mes amis. Amen. J'ai besoin de racines solidement ancrées dans le Seigneur, dans la dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Ces racines du palmier me parlent de profondeur, contrairement à la superficialité qui est prônée aujourd'hui dans notre société. Aujourd'hui, c'est le tape à l'œil. Aujourd'hui, c'est l'apparence. D'ailleurs, Paul va annoncer des temps où les hommes auront l'apparence de la piété. Mais ils renieront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est sa profondeur. Amen. Et je prie le Seigneur pour que vraiment ces quelques paroles nous encouragent, par exemple, à progresser dans la vie de prière. À quoi se limite ta vie de prière? Bon, merci Seigneur, elle existe déjà, c'est bien. Mais approfondis-la. Va plus loin. Va plus loin. Acquiert de la pugnacité dans la prière. Va plus loin, va en profondeur. Que notre vie de prière soit plus qu'un enchaînement de formules, mais vraiment, nous entrons dans l'intercession, parfois dans le combat spirituel. Alléluia, gloire à Dieu, entre dans la prière. La lecture de la parole de Dieu, il y a lecture et lecture, vous savez. On peut lire la Bible en diagonale. Nous, en français, quand j'étais au lycée, on nous apprenait des techniques de lecture rapide. Alors, on devait être capable de lire un pavé en 2 heures, mais c'était en diagonale. N'espérons pas retirer beaucoup d'édification par des lectures en diagonale. Lire la parole de Dieu, bien sûr, mais la méditer, la sonder, vous sonder les Écritures. Ma Bible me parle d'Esdras qui était versé dans les Écritures. Sa mémoire était imprégnée par les versets de la parole de Dieu. Mémoriser la parole de Dieu. Nous, on a toujours, vis-à-vis de l'enseignement aux enfants, privilégié, avec mon épouse, la mémorisation de versets bibliques, sous des formes ludiques. Mais d'incruster durablement dans la mémoire d'un petit un verset de la parole de Dieu, le moment venu, peut-être même des années plus tard, c'est ce verset des Saintes Écritures que le Saint-Esprit va utiliser pour bénir le gosse. Le gosse de 25 ans peut-être. La profondeur. Aimer, méditer la parole de Dieu, la citer, la réciter, s'en imprégner, combien toutes ces choses sont importantes, que Dieu soit béni. Les racines, c'est la partie cachée. C'est la partie qui exprime la soif du palmier. Je prie pour qu'on ait tous soif du Seigneur. Amen. Soif de sa parole, gloire à Dieu. Amen. La soif spirituelle est un signe de bonne santé. Amen. La partie cachée, puis la partie visible. Ah oui, parce que le palmier, le juste, le palmier, doit aussi présenter à son environnement social une partie visible. Qui exprime les bénédictions du Seigneur. Sa partie visible, eh bien, la Bible nous dit, il porte encore des fruits. Dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et ils sont verdoyants. La partie visible, ça. C'est tout un programme, hein. Donc, les justes, les enfants de Dieu, hein, les chrétiens, les enfants de Dieu, portent encore des fruits dans la vieillesse. Voilà, écoutez bien tous les vieux, là. Hein, j'en fais partie, donc c'est bon. Hein, c'est chaque mot a son importance. Ils portent encore, des fruits dans la vieillesse. Ils sont plein de sève, et ils sont verdoyants. Moi, je veux être ce vieux-là. Et ça ne sera possible que si j'ai des bonnes racines. Parce que la partie apparente est conditionnée à la santé de la partie cachée. Amen. On ne pourra jamais faire semblant avec le Seigneur. Une vraie piété engendrera ce témoignage rayonnant. Et moi, ça m'interpelle quand il est question ici de vieillesse. Parce que on a tous fait cette observation. En vieillissant, quelquefois, il y en a qui vieillissent mal. On aimerait bien vieillir tous là. Amen. Vous savez, tous les jeunes là, c'est quoi l'avenir des jeunes? C'est la vieillesse. Donc vous allez devenir des vieux aussi. Donc la volonté de Dieu, c'est que jusque dans votre vieillesse, vous exprimiez une vitalité, une richesse, quelque chose qui fait envie et qui est un témoignage. Parce que vieillir mal, c'est quoi vieillir mal? Vieillir mal, c'est permettre à des penchants naturels anciens de reprendre leur force. Et j'ai remarqué ça, je pense que vous aussi, c'est qu'en vieillissant, notre caractère se renforce. Les traits du caractère se renforcent. Par exemple, si j'ai un tempérament négatif, plaintif, critique, je sais qu'il n'y en a pas ici à Aubagne, donc c'est pour ça, très librement, j'en parle. Avec l'âge, la tendance naturelle serait que ces traits de caractère se renforcent. Sauf si mes racines plongées et enracinées en Christ font remonter jusqu'au sommet la vie du Seigneur. Alors là, c'est différent. Voilà. J'aimerais être un vieux par exemple, encourage les jeunes. J'ai visité, on fait des visites pastorales, vous voyez, et on le fait avec beaucoup de plaisir, il n'y a pas de problème, beaucoup de plaisir, mais en même temps, on constate des choses. Et il m'est arrivé de visiter des personnes âgées, bien âgées, devant elles j'étais un ado, bien âgé, et je passais volontiers trois quarts d'heure, une heure. Et en partant, je me suis dit, tiens, le frère, il a parlé que de lui. Il n'a parlé que de lui. Il a sorti en quelque sorte l'album photo. Et nostalgiquement, il m'a raconté son parcours, son histoire, ses étapes, Mais à moi, il m'a pas adressé une seule question. Comment allez-vous? Comment ça se fait que vous êtes là? Racontez-moi comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Ça me ferait plaisir de vous entendre. Comment Dieu vous a-t-il appelé à le servir? Rien, zéro. Zéro. Que l'album photo. Ça se respecte, Mais moi, j'aimerais pas vieillir comme ça quand même. Parce que quand le jeune roi Joas est venu voir Élisée le vieux, le discours que le vieux a eu pour Joas a été tout autre. Un discours visionnaire, un discours dynamique et encourageant, animé d'un esprit de victoire. Joas, le jeune, était plus vieux que le vieux Élisée, parce que Joas parlait de passé, d'événements glorieux, mais qui dataient de plusieurs décennies. Élisée, non, prends ton arc, mets une flèche, ouvre la fenêtre, décoche, c'est une flèche de délivrance. Le vieux encourage le jeune. Moi, je prie pour qu'il en soit ainsi pour nous. Oui ou non? Amen. C'est ça la complémentarité générationnelle parmi les enfants de Dieu dans une église. Alléluia. On faisait quelque chose, il y a des années en arrière, avec le groupe de jeunesse. Une fois par an, vers la fin de l'année, on divisait le groupe de jeunesse deux par deux, et les binômes de jeunes avaient chacun une personne âgée à visiter. C'était quelque chose très apprécié par les jeunes et par les aînés. Et un constat était là. toujours, quand les jeunes revenaient, ils revenaient enrichis, encouragés d'avoir entendu les personnes âgées de l'Église leur témoigner de leur vécu et les encourager en disant « Mon petit, vas-y, consacre-toi, persévère, le Seigneur est bon, alléluia !» Vous voyez, être des sources d'encouragement. Eh bien oui, ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et ils sont verdoyants. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais terminer entre la partie cachée et ces branches, ce feuillage verdoyant, il y a le tronc. Et j'aimerais terminer avec le tronc. C'est l'intermédiaire. C'est par le tronc que transite la sève jusqu'au bout des plus petites branches, n'est-ce pas ? Le tronc. Et le tronc du palmier a aussi ses caractéristiques. Il y en a deux que j'aimerais citer et qui semblent contradictoires, mais elles sont en fait complémentaires. C'est que le tronc du palmier a un extérieur très dur et un cœur très tendre. Vous aimez les cœurs de palmier ? Oh, c'est bon ça, hein ? C'est tendre, c'est agréable. Le cœur est tendre, mais l'écorce est d'une résistance record. Ce sont deux qualités dans lesquelles nous sommes appelés à croître. Parce que si ton extérieur ne te procure pas la protection dont tu as besoin, un rien va t'affecter. Un rien. Vous voyez ? Et il y a des chrétiens qui souffrent, qui sont malheureux parce que des événements anodins, au fond, les mettent dans des états de vexation, de tristesse, et ils souffrent inutilement parce qu'il leur manque une protection. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, protège-toi ! Amen ! Qu'il y ait cette protection que va te procurer l'expérience chrétienne, la sagesse de Dieu, protège-toi, relativise les choses négatives. Ne tiens pour rien ce qui pourrait nuire à ta joie et à ta paix. Protège-toi. Il faut que ta carapace soit dure et que ton cœur soit tendre. Amen. Et la tendreté du cœur du palmier nous parle de notre capacité de compassion. Amen. En prenant de l'âge, laissons Dieu développer en nous notre capacité de compassion. Aimons de l'amour de Christ. Gloire à Dieu. Prenons à cœur. Développons cette capacité de nous laisser toucher intérieurement. Et cette sensibilité va nous conduire à de l'intercession, à de la prière. Je dirais même que lorsque nous sommes intérieurement touchés par la compassion de Dieu, ça nous met dans des bonnes dispositions pour apporter des dons spirituels. Pendant une réunion de prière ou un culte, le Saint-Esprit va pouvoir nous utiliser comme des canaux par lesquels il va révéler une prophétie, une parole secourable pour un bien-aimé qui est mal en point, hein, la compassion. Donc, soyons protégés par une carapace très dure, mais développons notre capacité de compassion. Et j'aimerais terminer en disant qu'un palmier ne pousse jamais seul. Ça pousse toujours en groupe. Jamais seul. Le palmier n'est pas solitaire ni individualiste. Nous l'avons lu dans Exode 15. À un moment donné, le peuple d'Israël arrive à un endroit avec 12 sources d'eau, 70 palmiers, et la Bible nous dit qu'ils campèrent là, près de l'eau. 70 palmiers, Ça me fait penser aux 70 envoyés que Jésus, deux par deux, a mandatés hein, pour aller annoncer le royaume des cieux, guérir les malades. Ça nous parle de la communion fraternelle, la communion spirituelle. Ça nous parle de ce mot clé qu'on trouve souvent dans l'Écriture, ensemble, le mot ensemble. Amen. Le mot ensemble. Un pasteur, un vieux pasteur disait, vous savez, on peut être assis côte à côte et ne pas être ensemble. Hein? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Quelqu'un dira, mais oui, on est là. Non, mais c'est intérieurement, est-ce qu'on est ensemble? Lorsque dans Acte 4, je lis, ils élevèrent la voix tous ensemble. Ça, c'est les palmiers, ça. C'est les 70 palmiers, ils sont ensemble. Gloire à Dieu. Ils forment un tout bien compact, harmonieux, et c'est un faisceau de prières qui monte au trône de la grâce. C'est l'Église. Gloire à Dieu. Ah oui, l'adversaire aimerait bien hein, désorganiser la communion fraternelle, brouiller les choses. Hein, eh bien, résistons-lui. Oui ou non? Résistons-lui. Et refusons de laisser s'insinuer parmi nous des facteurs de discorde, de divergence, de distance, mais que nous soyons ensemble. Le palmier pousse en groupe. C'est l'Église. Et moi, j'ai besoin de l'Église. Les 95% de ce que je sais et de ce que je suis, je le dois à ma vie d'Église. C'est dans mon Église que j'ai grandi, que j'ai été nourri, soigné, que j'ai trouvé mes exemples, mes modèles, qui m'ont motivé, qui m'ont tiré vers le haut. Eh bien, on peut dire merci Seigneur pour l'Église. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et puis, ces palmiers se dressent dans le désert comme des signes d'espérance. Et quand les nomades, un peu égarés, assoiffé, voit un groupe de palmiers là-bas, derrière 5-6 dunes, ils voient, pour eux, l'espérance revient. Il y a des palmiers, donc il y a de l'eau. Eh bien, je crois que ceci nous parle de témoignages vivants que nous devons être dans le désert de ce monde où il y a des multitudes d'égarés et d'ignorants. Dieu veut te bénir, est utilisé comme un palmier d'espérance. Amen. Là, par ta vie quotidienne, par ce qui rayonne de ta personne, tu es appelé à dire, venez, il y a de l'eau ici. Il y a la vie, là. 175, allée de la fourmi, il y a de la vie. Il y a la vie de Jésus. Il y a le salut. Et être comme des palmiers, bien en vue, afin que du plus loin possible, les perdus est un point de repère, que le Seigneur soit béni. Amen. Allez, dernière lecture, et après on prie le Seigneur. Ce merveilleux texte de l'Apocalypse qui dit ceci. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ça, c'est les justes. Hein? C'est la foule des rachetés. Et ils tiennent dans leurs mains des palmes. En rapport avec le palmier. Et ces palmes, eh bien, ce sont les palmes de la victoire. Ce sont les palmes qui viennent couronner toute leur marche terrestre de persévérance joyeuse. Ils ont combattu, ils ont persévéré, ils sont allés jusqu'au bout et ils se retrouvent tous dans le ciel. Amen. On va se retrouver dans le ciel, hein. Ça vous réjouit Oui, il vaut mieux qu'on s'entende ici-bas parce que l'éternité c'est long, hein, comme a dit un pasteur. Tous ensemble, de toute tribu, de toute nation, alléluia, revêtus de vêtements blancs et des palmes dans leurs mains, c'est le témoignage de la victoire.